La pièce était brûlante des étincelles dorées de sa vision. Télémaque était brûlant lui aussi. Ses épaules paraissaient plus larges, ses membres gonflés de force. Même sa voix était plus profonde. « Ô déesse, répondit-il, toi qui as les yeux gris et qui es sage, je suis honoré d'être choisi parmi les mortels. Personne ne mérite un tel honneur. » Elle sourit, pareille à un serpent du temple devant son bol de crème. « Le navire viendra te chercher au crépuscule. Tiens-toi prêt !» C'était le signal qu'il attendait pour se lever, pour exhiber cette gloire qu'elle lui avait transmise et la brandir à la manière d'un étendard scintillant. Néanmoins, il s'agenouilla et resta immobile. « J'ai peur de ne pas être digne de tes cadeaux. » Je fronçai les sourcils. Pourquoi cette humilité? Ce n'était pas sage. Il fallait qu'il la remercie et qu'il abrège avant qu'elle trouve une raison de se sentir offensée. La voix d'Athéna se teinta d'impatience. « Je connais tes faiblesses. Elles n'auront pas d'importance puisque je serai là pour soutenir le bras qui tiendra ton javelot. Je t'ai déjà guidé jusqu'à la gloire avec les prétendants. Je te guiderai de nouveau. Tu as veillé sur moi et je t'en remercie. Pourtant, je ne peux pas accepter. » Dans la pièce, plus rien ne bougeait. Sa réponse siffla. « Que veux-tu dire ?»« J'ai réfléchi, » expliqua-t-il. « J'ai réfléchi pendant 3 jours, et je n'ai pas d'inclination à combattre les Troyens ni à construire des empires. Je recherche d'autres façons d'occuper mes jours. » Ma bouche était devenue sèche. Que fabriquait donc cet idiot ? Le dernier homme à avoir opposé un refus à Athéna était Paris, prince de Troie. Il lui avait préféré la déesse Aphrodite, et à présent il était mort, sa cité réduite en cendres. Les yeux d'Athéna évoquaient des augures fendant l'air. « Pas d'inclination ? Comment ça ? Quelqu'un d'autre t'a-t-il fait une meilleure offre ? Non. Alors quoi ?» Il ne broncha pas sous son regard perçant. « Je ne veux pas d'une vie pareille. »« Pénélope !» Son nom claqua comme un fouet. « Parle à ton fils !» Pénélope était face contre terre. « J'ai essayé, déesse. Il est déterminé à s'entêter dans cette direction. Tu le sais, ceux qui ont le sang de son père ont toujours été obstinés. »« Obstinés à accomplir des choses !» Athéna cracha chaque mot comme si elle brisait le cou d'une colombe. « En toute ingéniosité, quelle est cette décadence ?» Elle se retourna brutalement vers Télémaque. « Je ne te referai pas une offre de ce genre. Si tu persistes dans cette voie stupide, si tu refuses, toute ma gloire te quittera. Même si tu me supplies, je ne viendrai plus. » « Je comprends. » Son calme sembla décupler sa rage. « Personne n'écrira de chansons sur toi, ni d'histoire, comprends-tu ? Tu vivras une vie d'obscurité, tu seras dépourvu de noms à léguer à l'histoire, tu ne seras personne !» Chacune de ses paroles sonnait comme un marteau sur une forge. « Il allait céder, pensais-je. Bien sûr qu'il allait céder. » La gloire qu'elle décrivait représentait tout ce que les mortels désirent, leur seul espoir d'immortalité. « J'accepte ce destin, » déclara-t-il. Une incrédulité brute brilla sur le beau visage froid d'Athéna. Combien de fois lui avait-on dit non durant son éternité ? Elle n'arrivait pas à analyser la situation. On aurait dit un aigle qui a plongé pour attaquer un lapin et qui se retrouve le bec dans l'eau. « Tu n'es qu'un crétin !» cracha-t-elle. « Tu as de la chance que je ne te tue pas sur le champ !» Je vais t'épargner par amour pour ton père, mais je ne serai plus ta protectrice. » La gloire qui auréolait Télémaque avait disparu. Sans elle, il paraissait rabougri, noueux et gris comme de l'écorce d'olivier. J'étais aussi choquée qu'Athéna. Qu'avait-il fait ? Absorbée dans ses pensées, je ne vis pas la voie sur laquelle nous nous engagions jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « Télégonos !» reprit Athéna en braquant son regard argenté vers lui. sa voix avait de nouveau changé. On n'y sentait plus le fer qu'en filigrane. « Tu as entendu ce que j'ai proposé à ton frère. Maintenant, je te le propose à toi. Prendras-tu la mer pour devenir mon rempart en Italie ?» J'avais l'impression d'être en train de glisser d'une falaise. J'étais dans les airs, je tombais et rien ne me retenait. « Mon fils !» criai-je. « Ne dis rien !» Aussi rapide qu'une flèche, elle se retourna vers moi. « Tu oses de nouveau faire obstruction ? Que veux-tu de plus, sorcière ? J'ai prêté serment de ne pas lui faire de mal. Je lui offre un cadeau pour lequel des hommes seraient prêts à mourir. Vas-tu le garder entravé toute sa vie, comme un cheval blessé ? Tu ne peux pas vouloir de lui. Il a tué Ulysse. » Ulysse s'est tué tout seul. Ses paroles sifflèrent à travers la pièce, telle la lame d'une faux. Il a perdu son chemin. C'est toi qui l'y as conduit. La colère enflamma son regard. J'y lus qu'elle imaginait le bout de son javelot déchirant ma gorge jusqu'au sang. J'aurais fait de lui un dieu, un égal, mais en fin de compte, il était trop faible. C'étaient toutes les excuses que j'obtiendrai jamais d'une déesse. Avec une grimace féroce, je fendis l'air de la pointe du javelot. « Tu n'auras pas, mon fils! Je te combattrai avant de te laisser me le prendre !»« Mère !» Une voix douce s'était élevée à côté de moi. « Puis-je intervenir ?» J'étais en train de m'effondrer. Je savais ce que je verrais dès que je me tournerais vers lui. Son espoir ardent, suppliant. Il avait envie de partir. Il avait toujours eu envie de partir, depuis le moment où je l'avais pris dans mes bras à sa naissance. J'avais laissé Pénélope rester sur mon île pour qu'elle ne perde pas son fils. À la place, c'est moi qui allais perdre le mien. « J'en ai rêvé, » expliqua-t-il. « De champs dorés qui s'étendent à l'infini, jusqu'à l'horizon, de vergers, de rivières scintillantes, de troupeaux prospères. Je croyais que c'était Ithaque que je voyais. » Il essayait de parler doucement, de réfréner l'excitation enflant en lui, telle une inondation. Je pensais à Icare, qui était mort libre. Télégonos mourrait s'il ne l'était pas. Pas littéralement, mais toute sa douceur se rabougrirait avant de disparaître. Il me prit la main. Son geste ressemblait à celui d'un barde. Après tout, n'étions-nous pas dans une sorte de chanson ? C'était le refrain que nous avions pratiqué si souvent. « Il y a des risques, je le sais, mais tu m'as appris à être prudent. Je peux y arriver, mère. Je le veux. » Je n'étais plus qu'un espace gris empli de vide. Que pouvais-je dire ? L'un de nous devait avoir du chagrin. Je n'allais pas accepter que ce soit lui. « Mon fils, c'est à toi de décider. » La joie éclata en lui à la manière d'une vague. Je me détournai pour ne pas être obligée de la voir. Athéna allait être contente, pensais-je. Elle avait enfin sa vengeance. « Tiens-toi prêt pour le bateau !» annonça-t-elle. « Il arrive cet après-midi. Je n'en enverrai pas d'autre. » La lumière diminua pour redevenir simplement celle du soleil. Pénélope et Télémaque s'éclipsèrent. Télégonos m'enlaça comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était enfant, comme il ne l'avait peut-être jamais fait. « Souviens-toi de ce moment, » me dis-je. Ses épaules larges, la courbe de sa colonne vertébrale, la chaleur de son haleine. Toutefois, on aurait dit que mon esprit était asséché et balayé par le vent. « Mère, tu ne peux pas te réjouir pour moi ?»« Non, » avais-je envie de hurler. « Non, je ne peux pas. Pourquoi devrais-je être heureuse ? N'est-il pas suffisant que je te laisse partir ?» Mais je ne voulais pas que ce soit la dernière image qu'il garde de moi. Une mère qui hurlait et se lamentait comme s'il était mort, alors qu'il se promettait de vivre encore de si nombreuses années. « Je suis contente pour toi, » me forçais-je à articuler. Je le conduisis dans sa chambre, l'aidai à faire ses bagages, remplissant des malles de remèdes de toutes sortes, pour les blessures et les maux d'estomac, la rougeole, l'insomnie et même l'accouchement, ce qui le fit rougir. « Tu fondes une dynastie ? Les héritiers sont généralement nécessaires. » Je lui donnai tous les vêtements les plus chauds que je possédais, bien qu'on soit au printemps et que l'été arrive bientôt. Je lui suggérai d'emmener Arcturos, qui l'aimait depuis qu'elle était un louveteau. Je le pressai d'accepter des amulettes, l'enveloppai d'enchantements. Je le couvris de trésors, d'or, d'argent et des broderies les plus délicates, car les nouveaux rois réussissent d'autant mieux qu'ils ont des merveilles à distribuer. Il était un peu dégrisé à présent. Et si j'échoue ? Je pensais à ce pays décrit par Athéna. Ces terres vallonnées chargées de fruits lourds et de champs de céréales, cette citadelle animée qu'il allait construire. Il prononcerait des jugements depuis son siège, sur une tribune dans la salle la plus ensoleillée de son palais, et hommes et femmes afflueraient de partout pour s'agenouiller devant lui. Il fera un bon souverain, songeai-je, équitable et chaleureux. Il ne se laissera pas consumer comme son père. Il n'a jamais été avide de gloire, juste désireux de profiter de la vie. « Tu n'échoueras pas, » le rassurai-je.
« Tu ne crois pas qu'elle souhaite me nuire ?»
Maintenant, il s'inquiétait, alors que c'était trop tard. Il n'avait que 16 ans. Il était encore si neuf. « Non, je ne crois pas. Pour elle, c'est ton sang qui a de la valeur, et en temps voulu, ce sera toi. Elle est plus fiable qu'Hermès, même si aucun dieu ne peut être qualifié de constant. Tu dois te souvenir de penser par toi-même. »
« C'est promis. »
Il me regarda bien en face.
« Tu n'es pas en colère ?»«
Non, » confirmai-je. Cela n'avait jamais vraiment été de la colère, plutôt de la peur et de la tristesse. Il était le levier que les dieux pouvaient utiliser contre moi. Un coup à la porte. Télémaque, chargé d'un long paquet enveloppé de laine.
« Je suis désolée de vous déranger. »
Évitant avec soin tout contact visuel avec moi, il tendit le paquet à mon fils.
« C'est pour toi. »
Télégonos déroula le tissu. L'objet était un long morceau de bois effilé aux extrémités, creusé d'encoches. Ses cordes étaient méticuleusement enroulées autour. Télégonos caressa sa poignée en cuir.
« Il est magnifique !»«
C'est l'arc de notre père, » précisa Télémaque.
Télégonos leva les yeux d'un air accablé. Je vis l'ombre de son chagrin passé traverser son front.
« Mon frère, je ne peux pas. Je t'ai déjà pris ta cité.
Cette cité n'a jamais été à moi, et ceci non plus. À mon avis, tu feras bien meilleur usage des deux. »
J'avais l'impression d'être très loin. Je n'avais jamais vu leur différence d'âge si clairement auparavant. Entre mon fils, si enthousiaste, et cet homme qui avait choisi de n'être personne. Nous transportâmes les mâles de Télégonos jusqu'au rivage. Télémaque et Pénélope lui firent leurs adieux avant de battre en retraite. J'attendis à côté de mon fils, mais il s'en rendait à peine compte. Son regard était rivé sur l'horizon, cette soudure entre le ciel et les vagues. Le navire arriva dans le port. Il était imposant, les flancs couverts de résine et de peinture fraîche, pourvus d'une voile neuve et brillante. Ces hommes travaillaient proprement et efficacement. Ils avaient des barbes bien taillées, des corps fins et robustes. Lorsqu'on abaissa la passerelle, ils se massèrent derrière le bastingage avec impatience. Télégonos s'avança à leur rencontre. Il resta debout, large d'épaule et illuminé par le soleil, Arcturos à ses pieds, haletante. L'arc de son père, cordé, était accroché à son épaule.
« Je suis Télégonos d'Ea !» s'écria-t-il. « Fils d'un grand héros et d'une déesse plus grande encore. Bienvenue, car vous avez été conduit ici par Athéna, la déesse aux yeux gris en personne. »
Les marins tombèrent à genoux. Je n'allais pas supporter d'entendre la suite, pensais-je. J'allais l'agripper, l'attirer contre moi, mais je me contentais de le prendre une dernière fois dans mes bras, le serrant fort, comme si je pouvais garder son empreinte sur ma peau. Ensuite, je le regardais prendre place parmi eux et se poster près de la poupe qui se détachait sur le ciel.
La lumière envoyait des reflets argentés dans les vagues. Je levai la main en signe de bénédiction, abandonnant mon fils au monde. Les jours suivants, Pénélope et Télémaque me traitèrent comme si j'étais du ver égyptien. Ils passaient devant mon fauteuil sur la pointe des pieds, en parlant tout bas. Pénélope me proposa sa place au métier à tisser. Télémaque s'assurait que ma coupe soit toujours pleine. Le feu était toujours bien alimenté. Leurs attentions glissaient sur moi. Malgré leur gentillesse, ils ne représentaient rien à mes yeux. Les sirops de mon garde-manger étaient des compagnons de plus longue date qu'eux. J'allais m'occuper de mes herbes, mais elles semblaient se ratatiner entre mes doigts. Sans mon sort, l'air de l'île me paraissait nu. Désormais, les dieux pouvaient aller et venir à leur guise, y faire ce que bon leur semblait. Je n'avais pas le pouvoir de les arrêter. Les journées se réchauffèrent. Le ciel s'adoucit, s'ouvrant au-dessus de nous telle la chair mûre d'un fruit. Le javelot était toujours appuyé contre le mur de ma chambre. Je m'en approchai, puis enlevai son fourreau pour respirer ses pâles crêtes venimeuses, mais ce que je voulais en tirer, j'étais incapable de le dire. Je me frottai le torse comme on pétrit du pain.
« Est-ce que ça va ?» s'inquiéta Télémaque.
« Bien sûr que je vais bien. Que pourrais-je avoir ? Les immortels ne sont jamais malades. » Je me rendis sur la plage. Je marchais lentement, comme si je tenais un nourrisson dans mes bras. Le soleil cognait à l'horizon. Il cognait partout, sur mon dos, mes bras et mon visage. Je ne portais pas de châle. Je n'aurais pas de coup de soleil. Je n'en avais jamais. Mon île s'étendait autour de moi. Mes plantes, ma maison, mes animaux. Et il en serait ainsi, encore et encore, immuablement. La gentillesse de Pénélope et de Télémaque était sans importance. Elles le demeureraient même s'ils restaient toute leur vie, si Pénélope devenait l'amie que j'avais tant désirée, et lui autre chose, car tout cela ne représenterait qu'un instant fugace. Ils se flétriraient, je brûlerais leur corps, puis je regarderais les souvenirs que j'avais d'eux jaunir et pâlir, de même que tout finissait par pâlir au cours du flot sans fin des siècles, même des dalles, même les éclaboussures de sang du Minotaure, même les appétits de Scylla, même Télégonos. 60, 70 ans, voilà ce à quoi pouvait prétendre un mortel. Ensuite, il partirait pour les enfers, où je ne pourrais jamais aller, car les dieux sont le contraire de la mort. Je tentai d'imaginer ces collines crépusculaires et ces prairies grises où les ombres blanches avancent doucement. Certaines marchaient main dans la main avec ceux qu'elles avaient aimés au cours de leur vie. Certaines attendaient, sûres de la venue de leur bien-aimé. Et pour celles qui n'avaient pas aimé et dont les vies avaient été remplies de douleurs et d'horreurs, il y avait le fleuve noir l'été où l'on pouvait boire et oublier. Un peu de consolation. Pour moi, il n'y avait rien. Je continuerai simplement à travers les innombrables millénaires, tandis que tous ceux que je rencontrerai me glisseraient entre les doigts, m'abandonnant en compagnie de ceux qui étaient à mon image, les Olympiens et les Titans, ma sœur et mes frères, mon père. Je sentis alors quelque chose en moi. C'était comme au premier jour de mes enchantements, lorsque le sentier s'ouvrait soudainement sous mes pieds comme une évidence. Durant toutes ces années, j'avais lutté, mais une partie de moi était restée immobile, exactement comme ma sœur l'avait dit. Il me sembla entendre la créature pâle depuis la pénombre de ses profondeurs. « Alors fabrique-en un autre, mon enfant. » Je ne fis rien pour me préparer. Si je n'étais pas prête maintenant, quand le serais-je? Je ne montais même pas jusqu'au pic. Il allait venir ici, sur mes sables jaunes, et m'affronterait là où je me trouverais. « Père, » dis-je dans le vide, « j'aimerais te parler. »